quatrième jour. L'Aude. Où Guillaume et Séverin examinent le cadavre de Béranger, découvrent qu'il a la langue noire, chose singulière pour un noyé. Puis ils discutent de poisons très douloureux et d'un vol du temps passé. Je ne m'attarderai pas à dire comment nous informâmes l'abbé, comment toute l'abbaye se réveilla avant l'heure canonique, les cris d'horreur, l'épouvante et la douleur qu'on voyait sur le visage de chacun, comment la nouvelle se propagea dans tout le peuple de la plaine, avec les servants qui se signaient et prononçaient des formules de conjuration. Je ne sais si ce matin-là, le premier office se déroula selon les règles et qui y prit part. Moi, je suivis Guillaume et Séverin qui firent envelopper le corps de Béranger et donnèrent l'ordre de l'allonger sur une table dans l'hôpital. Une fois l'abbé et les autres moines éloignés, l'herboriste et mon maître observèrent longuement le cadavre avec la froideur des hommes de médecine. « Il est mort noyé, » dit Séverin. « Il n'y a point de doute. Le visage est enflé, le ventre est tendu. »« Mais il n'a pas été noyé par quelqu'un d'autre, » observa Guillaume. « Sinon, il se serait rebellé à la violence de l'homicide et nous aurions trouvé des traces d'eau répandues autour de la baignoire. Au contraire, tout était bien ordonné et propre, comme si Béranger avait fait réchauffer l'eau, rempli la baignoire et s'y était installé de sa propre volonté. « Voilà qui ne m'étonne guère, » dit Séverin. Béranger souffrait de convulsions et je lui avais dit moi-même à plusieurs reprises que les bains tièdes servent à calmer l'excitation du corps et de l'esprit. Plusieurs fois, il m'avait demandé l'autorisation d'accéder au balnéa. C'est ce qu'il aurait pu faire cette nuit. La nuit précédente, corrigea Guillaume, car ce corps, tu le vois, est resté dans l'eau un jour au moins. Il est possible que ça se soit passé l'autre nuit, convint Séverin. Guillaume le mit en partie au courant des événements de cette nuit-là. Il ne lui dit pas que nous étions allés furtivement dans le scriptorium, mais en lui cachant diverses circonstances, il lui dit que nous avions poursuivi une silhouette mystérieuse qui nous avait dérobé un livre. Séverin comprit que Guillaume ne lui racontait qu'une partie de la vérité, mais il ne posa pas de questions. Il observa que l'agitation de Béranger, si c'était lui, le voleur mystérieux, pourrait l'avoir poussé à chercher la tranquillité dans un bain restaurateur. Béranger, observa-t-il encore, était de nature très sensible. Parfois, une contrariété ou une émotion lui provoquait des tremblements, des sueurs froides. Il roulait des yeux et tombait par terre en crachant une bave blanchâtre. « En tout cas, dit Guillaume, avant de venir ici, il s'est rendu ailleurs, car je n'ai pas vu dans les balnéas le livre qu'il a volé. « Oui, confirmai-je avec une certaine fierté. J'ai soulevé sa vêture qui croupissait à côté de la baignoire, et je n'ai trouvé trace d'aucun objet volumineux. « Bien, me sourit Guillaume. Donc il s'est rendu quelque part ailleurs. Puis admettons toujours que pour calmer son agitation et peut-être pour se soustraire à nos recherches, il se soit glissé dans les balnéas et se soit plongé dans l'eau. Séverin, juges-tu que le mal dont il souffrait était suffisant pour lui faire perdre les sens et entraîner la noyade ?»« Ça se pourrait, » hésita Séverin. « D'autre part, si tout est arrivé il y a deux nuits, de l'eau aurait très bien pu verser autour de la baignoire et sécher par la suite. Ainsi, nous ne pouvons exclure qu'il a été noyé de vive force. Pourtant, objecta Guillaume, as-tu déjà vu un assassiné qui, avant de se faire noyer, ôte ses vêtements ? Séverin ne répondit pas, car depuis quelques instants, il examinait les mains du cadavre. Voici une chose curieuse, dit-il. L'autre jour, j'ai observé les mains de Venantius quand on lavait son corps du sang qui le recouvrait, et j'ai remarqué un détail auquel je n'avais pas donné beaucoup d'importance. Le bout de deux doigts de la main droite de Venantius était foncé, comme noirci par une substance brune. Exactement, tu vois, comme à présent, le bout des deux doigts de Béranger. Et même en ce cas, nous en avons quelques traces sur le troisième doigt, alors j'ai pensé que Venantius avait touché des encres dans le scriptorium. Très intéressant, observa Guillaume tout pensif en regardant de plus près les doigts de Béranger. L'aube se levait, la lumière à l'intérieur était encore faible, mon maître souffrait évidemment du manque de ses verres. très intéressant, répéta-t-il. L'index et le pouce sont foncés au bout, le médius seulement sur la partie interne et faiblement. Mais il y a des traces plus faibles sur la main gauche aussi, au moins sur l'index et sur le pouce. S'il ne s'agissait que de la main droite, ce seraient les doigts de qui saisit quelque chose de petit ou de long et de mince, comme un stylet ou un aliment ou un insecte, ou un serpent ou un ostensoir, ou un bâton, trop de choses. Mais s'il y a des signes sur l'autre main aussi, ce pourrait être encore une coupe tenue solidement dans la droite, quand la gauche collabore avec une moindre force. Séverin s'était mis à frotter légèrement les doigts du mort, mais la couleur brune ne partait pas. Je remarquai qu'il avait enfilé une paire de gants dont il se servait probablement quand il manipulait des substances toxiques. Il reniflait, mais sans en tirer aucune sensation. Je pourrais te citer beaucoup de substances qui provoquent des traces de ce type, certaines létales, d'autres pas. Les enlumineurs ont parfois les doigts maculés de poudre d'or. Adelme était enlumineur, dit Guillaume. J'imagine que devant son corps fracassé, tu n'as pas pensé à lui examiner les doigts. Mais eux, ils pourraient avoir touché quelque chose qui avait appartenu à Adelme. Je ne sais vraiment pas, dit Séverin. Deux morts, tous deux avec les doigts noirs. Qu'en déduis-tu ?
Je n'en déduis rien, car les règles du syllogisme nihil sequitur gemini ex particularibus unquam, de deux faits singuliers, on ne tire aucune loi. Il faudrait connaître d'abord la loi, qu'il existe par exemple une substance qui noircit les doigts de qui la touche.
Je terminais triomphant le syllogisme. Venantius et Béranger ont les doigts noircis, ergo, ils ont touché cette substance.
« Bien, Atso, dit Guillaume.
Dommage que ton syllogisme ne tienne pas non plus debout, car aut semel aut iterum medium generaliter esto, et dans ce syllogisme, le moyen terme n'apparaît jamais comme général, signe que nous avons mal choisi la prémisse majeure. Je ne devais pas dire « tous ceux qui touchent une certaine substance ont les doigts noirs », car il pourrait exister aussi des personnes avec les doigts noirs et qui n'ont pas touché la substance. Je devais dire « tous ceux, et seulement tous ceux, qui ont les doigts noirs, ont certainement touché une substance donnée. Venantius et Béranger, etc. Avec quoi, nous aurions un Dari, un excellent troisième syllogisme de première figure.
Alors nous avons la réponse, dis-je tout content.
Hélas, Atso, comme tu te fies au syllogisme. Nous avons seulement et de nouveau la question. En somme, nous avons émis l'hypothèse que Venantius et Béranger ont touché la même chose, hypothèse à coup sûr raisonnable. Mais une fois que nous avons imaginé une substance qui seule entre toutes provoque ce résultat, ce qui est encore à vérifier, nous ne savons ce qu'elle est, ni où ceux-ci l'ont trouvée et pourquoi ils l'ont touchée. Et note bien, nous ne savons pas même à la fin si la substance qu'ils ont touchée est ce qui les a conduits à la mort. Imagine qu'un fou veuille tuer tous ceux qui touchent de la poudre d'or. Dirions-nous que c'est la poudre d'or qui tue ?
Je demeurais troublé. J'avais toujours cru que la logique était une arme universelle, et je m'apercevais maintenant combien sa validité dépendait de la façon dont on en usait. Par ailleurs, en fréquentant mon maître, je m'étais rendu compte, et je m'en rendis de plus en plus compte dans les jours qui suivirent, que la logique pouvait grandement servir à condition d'y entrer et puis d'en sortir. Séverin, qui n'était certes pas un bon logicien, réfléchissait cependant selon sa propre expérience. L'univers des poisons est varié comme variés sont les mystères de la nature, dit-il. Il montra une série de vases et de flacons qu'une fois déjà nous avions admirés, disposés en bon ordre sur les étagères, le long des murs, avec quantité de volume. Comme je te l'ai déjà dit, nombre de ces herbes dûment composées et dosées pourrait fournir des boissons et des onguents mortels. Voici là-bas, stramonium, belladone, ciguë. Elles peuvent procurer somnolence, excitation, ou bien l'une et l'autre. Administrées avec prudence, ce sont d'excellents médicaments. En dose excessive, elles entraînent la mort.
Mais aucune de ces substances ne laisserait des marques sur les doigts.
Aucune, je crois. Ensuite, il y a les substances qui deviennent dangereuses uniquement si on les ingère et d'autres qui agissent au contraire sur la peau. L'élébore blanc peut provoquer des vomissements chez qui le saisit pour l'arracher de terre. Le dictam est le sceau de Salomon qui, quand il est en fleur, provoque de l'ivresse chez les jardiniers s'ils le touchent, comme s'ils avaient bu du vin. L'élébore noir, à le toucher seulement, provoque la diarrhée. D'autres plantes donnent des palpitations du cœur, d'autres de la tête, d'autres encore ôtent la voix. Par contre, le venin de la vipère appliqué sur la peau sans qu'il pénètre dans le sang ne produit qu'une légère irritation. Mais une fois, on me montra une mixture qui, appliquée sur la partie interne des cuisses d'un chien, près des organes génitaux, provoque la mort de l'animal en un court laps de temps, au milieu de convulsions atroces, les membres se roidissant peu à peu.
« Tu en sais long sur les poisons, »
observa Guillaume, dont la voix paraissait trahir une grande admiration. Séverin le fixa et, quelques instants, soutint son regard. « Je sais ce qu'un médecin, un herboriste, un amateur de sciences de la santé humaine doit savoir. » Guillaume resta un long moment songeur. Puis il pria Séverin d'ouvrir la bouche du cadavre et d'en observer la langue. Séverin, intrigué, se servit d'une fine spatule, un des instruments de son art médical, et s'exécuta. Il eut un cri de stupeur.
« La langue est noire !»«
Alors c'est ça, » murmura Guillaume. Il a saisi quelque chose avec les doigts et l'a ingéré. Ce qui élimine les poisons que tu viens de citer, qui tuent en pénétrant à travers la peau. Mais ne rend pas plus facile nos inductions, parce qu'à présent nous devons penser, pour lui et pour Venantius, à un geste volontaire, non casuel, où n'entre en jeu ni la distraction, ni l'imprudence, ni la violence d'autrui. Ils ont saisi quelque chose et l'ont introduit dans leur bouche, sachant ce qu'ils faisaient.
Un aliment, une boisson?
Peut-être. Ou peut-être, que sais-je, un instrument musical, comme une flûte.
Absurde,
dit Séverin. Certes, c'est absurde. Mais nous ne devons négliger aucune hypothèse, pour extraordinaire qu'elle soit. Pour l'instant, cherchons à remonter à la matière toxique. Si quelqu'un qui connaît les poisons autant que toi s'était introduit ici et s'était servi de certaines de tes herbes, aurait-il pu composer un onguent mortel susceptible de produire ses marques sur les doigts et sur la langue? Susceptible d'être mêlé à un aliment, à une boisson, placé sur une cuillère, sur quelque chose qui se met à la bouche?
Oui, admit Séverin. Mais qui?
Et puis, en admettant cette hypothèse, comment eût-on administré le poison à nos deux malheureux frères? Franchement, moi non plus, je n'arrivais pas à imaginer Venantius ou Béranger se laissant approcher par quelqu'un qui leur aurait présenté une substance mystérieuse et les aurait convaincus de la manger ou de la boire. Mais cette bizarrerie ne parut pas troubler Guillaume. « À cela, nous penserons plus tard, » dit-il, « parce que pour l'heure, j'aimerais que tu cherches à te rappeler quelques faits qui, peut-être, ne t'est pas encore revenu à l'esprit. Je ne sais pas, moi, quelqu'un qui t'aurait posé des questions sur tes herbes, quelqu'un qui entrerait avec facilité dans l'hôpital. »
« Attends voir, » dit Séverin. « Il y a longtemps de cela, je parle d'années, je conservais sur une de ces étagères une substance très puissante que m'avait procurée un frère au retour de voyage dans de lointains pays. Il ne savait pas me dire de quoi elle était faite, d'herbes certainement, mais pas toute connue. D'apparence, elle était visqueuse et jaunâtre, mais on me conseilla de ne pas la toucher, car, ne fût-elle entrée qu'au seul contact de mes lèvres, elle m'aurait tué en un court moment. » Ce frère me dit que, ingérée même à dose minime, elle provoquait en l'espace d'une demi-heure une sensation de grande fatigue, puis une lente paralysie de tous les membres et la mort, enfin. Il ne voulait pas l'emporter avec lui, il m'en fit don. Je la gardai longtemps, car je me proposais de l'examiner d'une façon ou d'une autre. Puis un jour, une grande tempête se déchaîna sur le plateau. Un de mes aides, un novice, avait laissé ouverte la porte de l'hôpital et l'ouragan avait mis sens dessus-dessous toute la pièce où nous nous trouvons maintenant. Flacons brisés, liquide répandu sur le pavement, herbes et poudres aux quatre vents. Je travaillais un jour entier pour remettre en ordre mes affaires et je ne me fis aider que pour balayer les tessons et les herbes irrécupérables désormais. À la fin, je m'aperçus qu'il manquait justement le flacon dont je te parlais. D'abord, je fus préoccupé, ensuite je me persuadais qui s'était brisé et confondu avec les autres débris. Je fis laver de fond en comble le pavement de l'hôpital et les étagères.
Et tu avais vu le flacon quelques heures avant l'ouragan ?
Oui. Ou plutôt non, maintenant que j'y pense. Il se trouvait derrière une rangée de vases, bien cachée, et je ne le contrôlais pas chaque jour.
Donc, d'après ce que tu sais, il aurait pu être dérobé bien avant l'ouragan, sans que tu le saches.
À présent que tu m'y fais réfléchir, oui, sans nul doute.
Et ton novice pourrait l'avoir dérobé, et puis saisi l'occasion de l'ouragan pour laisser délibérément la porte ouverte et mettre tes affaires dans le plus grand désordre.
Séverin eut l'air fort excité.
Certes, oui. Non seulement, mais en me rappelant ce qui advint, je fus très étonné que l'ouragan, pour violent qu'il fût, eût renversé tant de choses. Je pourrais parfaitement avancer que quelqu'un a profité de l'ouragan pour ravager la pièce et produire plus de dommages que le vent n'aurait pu le faire.
Qui était le novice ?
Il s'appelait Agostino, mais il est mort l'année dernière en tombant d'un échafaudage, tandis qu'avec d'autres moines et des servants, il nettoyait les sculptures de la façade de l'église. Et puis, en y songeant bien, il avait juré ses grands dieux qu'il n'avait pas laissé la porte ouverte avant l'ouragan. Ce fut moi, rendu furieux, qui le tint pour responsable de l'incident. Peut-être était-il vraiment innocent. Et comme ça, nous avons une troisième personne, sans doute bien plus experte qu'un novice, qui connaissait l'existence de ton poison. À qui en avais-tu parlé ?
Ça, vraiment, je ne m'en souviens pas.
À l'abbé, bien sûr, en lui demandant la permission de garder une substance aussi dangereuse. Et à quelque autre, peut-être, justement à la bibliothèque, car je cherchais des herbiers qui auraient pu me révéler quelque chose.
Mais ne m'as-tu pas dit que tu conserves près de toi les livres les plus utiles à ton art ?
Si, et beaucoup, dit-il, en montrant dans un coin de la pièce plusieurs étagères chargées de dizaines de volumes.
Mais à l'époque, je cherchais certains livres qu'il me serait impossible de garder ici, et même que Malaki était réticent à me laisser consulter, à telle enseigne que je dus en demander l'autorisation à l'abbé.
Sa voix se fit plus basse, comme s'il avait quelques scrupules à ce que je l'entendisse moi aussi.
Tu sais, dans un lieu inconnu de la bibliothèque, on conserve même des ouvrages de nécromancie. J'ai pu consulter certaines de ses œuvres, par devoir de connaissance, et j'espérais trouver une description de ce poison et de ses fonctions. En vain.
Tu en as donc parlé à Malaki ?
Sans nul doute à lui, et peut-être aussi à Béranger lui-même, qui l'assistait. Mais n'en tire pas de conclusion hâtive. Je ne me souviens pas, peut-être, tandis que je parlais, d'autres moines étaient présents, tu sais. Il y a parfois beaucoup de monde dans le scriptorium.
Je ne soupçonne personne. Je cherche simplement à comprendre ce qui a pu se passer.
Tu me dis en tout cas que le fait eut lieu il y a quelques années de cela.
Et il est curieux que quelqu'un ait dérobé tellement par avance un poison dont il se serait servi tellement plus tard. Ce serait le signe d'une volonté maligne qui a longuement couvé dans l'ombre un propos homicide.
Séverin fit le signe de la croix avec une expression d'horreur sur le visage.
« Que Dieu nous pardonne tous !»
dit-il.
Il n'y avait point d'autre commentaire à faire.
Nous recouvrîmes le corps de Béranger qu'il faudrait préparer pour les funérailles.